voilà dans l'émission Histoire d'archives. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas retrouvé Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales, pour cette émission. Et je le regrette. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Aujourd'hui, vous allez nous parler du printemps de la ruralité.
Alors oui, alors c'est un nouveau dispositif, hein, une nouvelle idée lancée par le ministère de la Culture en février. Hein, donc en février, nous recevons tous dans nos domaines, hein, respectifs, quels qu'ils soient, du côté du patrimoine, que ce soit le patrimoine d'ailleurs, le patrimoine classique, mais aussi l'action culturelle, etc. On reçoit donc un communiqué de presse, en fait, du ministère qui nous dit que printemps de la ruralité, lancement d'une grande concertation nationale en ligne sur la vie culturelle en milieu rural. Alors évidemment, nous qui sommes dans un département, les Alpes-de-Haute-Provence, qui est un département plutôt rural, hein, en particulier dans la région PACA, qui est quand même une zone très très urbaine, hein, c'est en particulier évidemment sur les départements de la côte, évidemment, on est forcément intéressés, donc on se lance dans ce qui était proposé, et ce qui était proposé, c'était un questionnaire en ligne, où il fallait répondre, hein, quel que soit d'ailleurs le statut de la personne, hein, que ce soit un professionnel ou un amateur, un habitant, etc. Et donc notre première mission a été donc de diffuser ce communiqué pour que chacun puisse répondre. Enfin l'idée derrière, hein, qui sous-tend cette enquête, c'est évidemment de savoir ce qu'il en est dans le domaine culturel en milieu rural. C'est-à-dire en fait, en gros, quelles sont les propositions qui sont réalisées, mais aussi les difficultés que rencontrer, les attentes aussi des populations, hein, ce qui est quand même la logique, vous voyez, donc en fait à la fois sur une question de l'offre, une question de la demande. Voilà. Et puis si on compare évidemment à une zone urbaine, à une grande ville, évidemment, on est très très loin de ces questions, puisque l'offre est évidemment très importante en ville, et puis on n'a pas les mêmes problématiques, parce qu'en fait, en milieu rural, on a quoi comme problématique? Quand on regarde notre département, on a un problème de compétences, en fait, hein, tout simplement, il y a peu de personnes qui travaillent dans le domaine culturel, vous voyez, du côté des professionnels, hein, j'entends. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment la question de la dispersion, hein, de la densité. Nous intervenons quelquefois dans des villages où il y a 60 habitants, vous voyez, donc évidemment, ce n'est pas la même chose que de proposer dans une très grande salle en ville, évidemment, un spectacle, une lecture d'archives, etc. Mais j'en parlerai après. Voilà, donc il y a évidemment cette difficulté-là. Donc on est parti là-dessus. Et puis comme on est dans le domaine, alors moi je reviens maintenant dans le domaine des archives, dans le domaine des archives, nous, je le dis toujours, hein, mais le département des Alpes-de-Provence est connu pour son action culturelle. C'est vraiment ce qui fait notre couleur par rapport aux autres services d'archives départementales, hein, les 101 services d'archives départementales, jusqu'à 101 départements. On est vraiment épinglé, enfin, vous voyez, comme un service qui a une très forte politique culturelle, et ce n'est pas au détriment du reste, hein, je mets entre parenthèses, voilà, une très forte politique culturelle, à tel point d'ailleurs que quand on compare les résultats de fréquentation, en fait, hein, on est autour de 16 000 et 20 000 personnes chaque année, ce qui nous classe dans en troisième position, vous voyez, au niveau national, dans tous les services d'archives, donc, sachant qu'on est peut-être, je crois, le troisième plus petit département français, vous voyez, donc, on est à l'inverse de notre classement, c'est intéressant, vous voyez, à voir. D'autant plus que nous, on a toutes les difficultés, le transport, la géographie. Hein. Moi, j'ai toujours le bail, c'est très loin. Entrevaux, c'est très loin. Si vous prenez comme ça, etc. Donc, on a vraiment quand même beaucoup de difficultés. La question de la densité, donc je l'ai dit. Hein. Faire 16 000, c'est difficile, vous voyez. Une lecture d'archives, vous avez 30 personnes, on est très heureux, vous voyez. Mais c'est que 30 personnes, vous voyez. Et c'est d'ailleurs une des questions qu'on se pose. Est-ce que ça vaut le coup d'aller pour 30 personnes? Alors qu'ailleurs, on aurait peut-être 80 personnes. C'est toute une problématique voilà, qui est liée donc, effectivement, au territoire. Alors évidemment, nous, on ne réfléchit pas comme ça, en fait. On essaie de trouver une moyenne. L'année dernière, j'ai fait une conférence pour 3 personnes. C'était à la maison d'arrêt. 3 détenus, les 3 détenus étaient très heureux que je fasse une conférence avec eux. On est resté 2 heures. Enfin, mais ça fait tomber mes statistiques, vous voyez.
Eh ben oui, oui, bien
alors,
sûr.
Alors on avait fait sur tous les objets qui sont saisis, vous savez. Donc j'avais amené des objets liés à la justice, etc. Ah, et donc ouais. C'est une boîte, vous savez, où il y avait des objets dedans sans trop savoir ce qu'il y avait. On sortait les objets au fur et à mesure et on commentait. Enfin, alors il y avait des objets et puis des papiers. De la fausse monnaie, etc. Ouais. Évidemment, ça fait tomber les statistiques. Si j'ai 3 personnes, vous voyez, si j'en fais beaucoup comme ça, est-ce que je peux consacrer du temps, est-ce que moi ou un autre agent hein, des archives peut consacrer beaucoup de temps, 2 heures, 3 heures, une matinée à préparer aussi, parce qu'il n'y a pas que faire, il faut aussi préparer. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Voilà. Donc ça, c'est une vraie problématique pour nous. Donc c'est pour ça que je dis, nos 16 000, c'est beaucoup. Alors c'est évidemment, parmi les 16 000, il y a beaucoup de personnes qui viennent aux expositions. Hein, on est autour entre 3 et 4 000, par exemple, à la cathédrale Saint-Jérôme chaque année. Hein, notre exposition qui est proposée de juillet à septembre attire beaucoup de monde. C'est celle qui attire le plus de monde. Mais il y a toutes les autres. Hein. Voilà, donc on est parti sur cette phase de concertation qui doit donner lieu normalement à un rapport, enfin une restitution. Alors on ne connaît pas encore trop la forme. Et qui doit normalement conduire à des mesures. Enfin, c'est le principe. Hein. C'est-à-dire que ça, on ne fait pas une enquête pour rien. Si on fait une enquête, c'est qu'on essaie effectivement de voir quels sont les leviers disponibles, les difficultés, les moyens qu'il faut attribuer. Et puis après, on essaie effectivement de faire des propositions, etc. Alors ça, c'était le premier point. Et alors après ce premier point, comme on est vraiment ici, je vous l'ai dit, un département pour les archives très caractérisé par notre ruralité. Il y a une enquête qui a été faite aussi par les inspecteurs généraux des affaires culturelles. Alors c'est un corps très, très à part dans le ministère de la Culture, qui est indépendant d'ailleurs du ministre, hein, qui n'a pas de tutelle, et qui a pour mission justement de faire des enquêtes. On a la même chose dans l'éducation nationale, etc. Oui, c'est des corps très très particuliers. Ce ne sont pas les inspecteurs qui sont attribués par secteur. Vous voyez, par exemple, nous on a aussi des inspecteurs pour les archives. Oui. Mais là, c'est vraiment un corps différent. Et donc, j'ai eu droit en fait à un questionnaire donc, pour effectivement voir ce qu'il en était. C'était en fait l'idée, vous voyez, quelles sont actuellement les actions que vous menez ou que mènent vos adhérents dans les zones rurales. Vous voyez, on revient toujours dans cette problématique. Est-ce qu'on a un document qui permet effectivement de faire le bilan de toutes ces activités? Quels sont nos moyens humains et matériels mis en œuvre, etc. Nous, ils sont très faibles en fait. Hein. On a 1,5 ETP, hein, équivalent temps plein, donc deux personnes en l'occurrence, qui s'occupent spécialement de l'action éducative et culturelle. Alors après, on intervient tous, hein, la directrice adjointe, la responsable du service des publics, d'autres agents, et voilà, tout le monde intervient. D'une manière ou d'une autre, enfin, on n'a qu'une personne et demie, enfin deux personnes dont le temps est vraiment réservé à cette action. Nos financements, et puis les publics. Donc je disais, en 2023, on était à 16 386 personnes, adultes et scolaires, hein, puisqu'on a aussi une très grosse activité scolaire, on est presque à 3 000, ce qui est énorme aussi, hein, 3 000 personnes, 3 000 enfants, enfin 3 000 écoliers, collégiens, lycéens et supérieurs, plus les 450 qui participent à d'autres activités. Enfin, vous voyez, on a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On touche les publics empêchés, hein, je vous l'ai dit, donc les populations carcérales, aussi les personnes qui sont dans les EHPAD, on reçoit aussi des groupes. On a effectivement un public qui est plutôt âgé. Vous voyez, donc ça nous permet aussi à nous, vous savez, c'est tout l'intérêt, c'est de faire un peu le point sur nos activités. Parce qu'en fait, on est le nez dans le guidon. Hein, et donc, on se dit, voilà, on a un bilan qui est possible. Et quand on regarde ce qu'on fait, on peut dire qu'au fond, on est pas mal. Rien que dans l'activité scolaire, on a proposé 135 ateliers, vous voyez, au cours de l'année. Alors, quand vous divisez par le nombre de semaines, hein, qui sont les semaines réelles, pas les vacances, hein, etc., parce qu'il y a les vacances scolaires qu'il faut enlever, puisque par définition, les scolaires ne sont pas là, et ça fait une très forte densité. Moi, Mais là, aujourd'hui, les deux personnes sont dans une école, vous voyez, là, ce matin, etc., etc. Oui, c'est sans arrêt. Parce qu'en fait, on se déplace beaucoup. Alors ça, c'est l'effet Covid. Avec le Covid, on avait le droit, nous, d'aller encore proposer des activités éducatives dans les écoles. Donc on a continué, donc on s'est déplacé, puisque les autres n'avaient pas le droit de venir. Et donc maintenant, on a pris ce pli de se déplacer, et en faisant aussi ce qu'on appelle des classes archives, avec les classes primaires, où on fait un échange, c'est-à-dire qu'en fait, on va chez eux et ils viennent chez nous. Voilà, 135, donc je disais 3000 élèves, et si on fait une moyenne sur 10 ans, on est un peu plus de 2100. Je dis toujours, en 2008 ou 2009, on était à 600 élèves, vous voyez.
Ah oui, ça a bien progressé.
On a multiplié par 5. Hein, ouais, voilà, donc, ouais. Alors, 3000 élèves, c'est assez exceptionnel. On est passé au-dessus. Hein. À deux occasions, on est passé largement au-dessus. En particulier en 2018, avec le centenaire de la guerre 14-18, on a fait deux gros spectacles qui ont regroupé plus de 200 élèves à chaque fois. Oui, donc du coup, évidemment, ça fait monter les statistiques. Voilà. Après, c'est un peu un bilan matériel de quoi on dispose, de quelle salle on dispose. Donc nous, on a tout ce qu'il faut aux archives départementales. Hein, on peut accueillir vraiment. On est même trop petit maintenant. On a une salle qui permet d'accueillir 80 personnes, je crois, dans les conférences. Et en fait, on refuse du monde. On a fait les dernières conférences, on était à plus de 90. Oui, c'est vraiment...
Les conférences aux archives marchent énormément, alors que Je discutais avec la directrice de la médiathèque. C'est beaucoup plus difficile à la médiathèque de faire venir du monde pour les conférences.
Alors, vous savez, il y a un mystère.
Ouais.
Pourquoi les gens viennent ? Moi, quand je leur pose la question, alors évidemment, ils ne disent pas de choses négatives. Hein,
ils ne
vont pas me dire, forcément. Hein, mais c'est toujours un mystère. Hein. Vous savez, vous faites une proposition... Je raconte toujours que quand je suis arrivé, il y avait, donc je suis arrivé en 2010, hein, il y avait une très belle exposition qui était sur les valeurs de la République, hein, voilà, sur les symboles de la République, hein, donc vous avez les drapeaux, la monnaie, Marianne, etc. Vous voyez, donc au sens large. Hein, et donc il y avait un cycle de conférences qui avait été organisé par la directrice qui faisait l'intérim, hein, entre Jacqueline Hirsch et mon arrivée, et qui étaient des conférences de très grande qualité, avec des universitaires sur des sujets républicains, etc. Eh bien, à la fin, on a dû annuler, on a dû arrêter, on avait une personne.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le cycle avançait, il y avait de moins en moins de monde. Mmh. Et en général, les gens qui venaient n'étaient pas forcément des Dinois, enfin des Dinois ou des gens des alentours, c'est-à-dire pas que des Dinois qui viennent aux conférences. En fait, c'était plutôt des touristes, vous voyez, etc. Et on s'est donc posé la question. Alors on a arrêté, hein, vraiment, une personne, on ne pouvait pas continuer. Quoi. J'ai eu le même cas avec la lecture d'archives. La lecture d'archives, on a eu du mal au départ. On fait une lecture d'archives un jour à Bannon, vendredi soir, deux personnes. Vous voyez, donc là, vous dites, on en fait une autre à Saint-Étienne-des-Orgues sur un type extraordinaire, hein, un garde forestier qui était politique, etc., qui a eu une carrière, sept personnes. Donc là, on s'est dit quand même, ça a un coût quand même, hein, faire venir des personnes. Les lecteurs d'archives, c'est un vrai coût. Donc on s'est dit, là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Comment peut-on réussir ? Alors, soit on arrête, on réoriente totalement notre activité, par exemple vers les écoles, etc. Soit on essaye de trouver des solutions. Alors, on a compris que d'une part, on ne pouvait pas faire une politique rurale, j'allais dire autoritaire, au sens où c'est nous qui choisissons les endroits où on va. Au début, moi, je disais à mes agents, on prend la carte et on va là, on fait le territoire, quoi, ce qui est logique, en fait. En l'occurrence, on doit desservir normalement à égalité le territoire. Et on s'est rendu compte que, un, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que si on n'a pas un relais local, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on ait un relais local, il faut qu'on ait une demande, etc. Et après, une habitude. Hein, on fait régulièrement, Montagnac-Montpezat, par exemple, tous les ans, soit une lecture d'archives, soit une conférence. Ariès, une lecture d'archives, vous voyez, etc. Donc on crée en fait une habitude. Hein, on crée un cycle, en fait. Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Et puis après, surtout la thématique, les thèmes abordés. En fait, le problème des valeurs de la République, hein, des symboles de la République, c'est que c'était trop général. C'était pas adapté... C'était fort intéressant, hein, c'est pas le problème, mais c'était pas, il n'y avait pas un élément local. Or, il faut qu'il y ait un élément local pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous allez à Montagnac-Montpezat, il faut parler des instituteurs de Montagnac-Montpezat au moment de la loi de 1905. Voyez. Quand vous allez à une lecture d'archives à Ariès, il faut parler de l'école de Ariès, c'était la dernière.
Bien sûr. Hein.
Voilà, il faut qu'il y ait cet angle local. Alors, on a eu aussi une chance. Moi, je dis toujours, c'est la vie rurale. On a, grâce à Éric Fabre, hein, dont on a publié l'ouvrage, qui était son habilitation à diriger des travaux de recherche, hein, qui est de thèse, qui fait plus de 800 pages, sans illustration, que des tableaux statistiques, etc. Vraiment un travail universitaire, ça a décollé notre activité. Mais vraiment, hein. Donc là, on est en 2015-2016, donc vous voyez, j'étais en 2010 hein, au départ, on a mis du temps hein, à s'installer, etc. Et là, ça a décollé. Ça a décollé parce qu'il y avait un réseau. Déjà, il y avait un intérêt pour la vie rurale, et puis la vie rurale, ça concernait tout le monde. Quand vous êtes dans un département rural, mais vous voyez, on a mis du temps pour s'en rendre compte. Donc, on a fait donc déjà la présentation de l'ouvrage, et on avait plus de 100 personnes. Mmh. Et là, on s'est dit, il y a un truc qui se passe. Parce que moi, je ne m'attendais pas à tout ça. Moi, je pensais que le livre ne se vendrait jamais. On l'avait fait un peu pour le prestige, vous voyez, pour dire... C'est quand même un travail universitaire, c'est la vie rurale dans les Basses-Alpes, c'est vraiment le sujet. On est des archives départementales, vous voyez. Mmh. Eh bien, on a tout vendu. Mais vraiment, hein, et les gens nous en demandent encore, quoi, vous voyez. Donc voilà, ça c'est l'ouvrage. Et donc il a fait une conférence, il y avait plus de 100 personnes. Et ça a décollé à ce moment-là. Et après, on a fait des lectures d'archives qui sont très demandées sur la vie rurale. On fait une partie basalpine, générale. Mais rien d'autre autour, vous voyez, basalpine, et la moitié en haut sur le village. Vous voyez, donc on va à tel endroit, on mélange en fait, et on fait toujours la chronologie, on respecte la chronologie, on mélange les deux. Et ça a été, tout de suite ça a marché. tout de suite.
Il n'y a pas eu besoin de moderniser les lectures d'archives avec de la musique, avec
contrairement
les comédiens.
On avait ça avant. Oui. En fait, on le faisait avant.
Oui.
Avant.
Il y avait si peu de monde.
Il y avait du monde des fois, on avait du monde quand il y avait, par exemple, les journées du patrimoine. Vous voyez, quand il y avait un événement. Évidemment, on pouvait s'accrocher sur un événement. Mais quand on le proposait, par exemple, en février ou en mars, ça ne marchait pas. Maintenant, on fait des conférences en janvier. On organise des conférences en janvier. On a plus de 60 personnes.
Vous voyez,
avant, on commençait en mars. Vous voyez. Donc, parce que, évidemment, quand on voit le succès que ça a eu, ça a décollé. Alors après, il y a eu l'effet, malheureusement, Covid, qui est un peu tué. On a eu beaucoup de mal à redémarrer. Mais finalement, ça a repris très, très vite. Et je vous dis, la dernière conférence était un peu particulière. Ils étaient autour un peu moins de 40. Celle d'avant, ils étaient 93. Celle d'avant, ils étaient 92. On avait fait une journée sur le Mont Chiran. Il y avait plus de 110 personnes. Une après-midi, etc. Après, on a eu sur les Crétins des Alpes aussi, on a eu plus de 120 personnes quasiment. On a fait aussi... on a réussi à installer quelque chose qui fait que maintenant, on a un public. On a eu récemment deux archéologues qui sont venus présenter un atlas des éléments archéologiques de la région PACA. Ils m'expliquaient, donc c'était des gens qui avaient une carrière déjà, vous voyez, qui étaient même émérites. Ils m'expliquaient qu'ils reviendraient à tout moment, car ils n'ont jamais autant de personnes... devant eux, ils avaient quasiment plus de 70 personnes. Mais c'est extraordinaire. Vous n'imaginez pas, vous êtes dans une petite ville. Même nous, dans les grandes villes, on n'a pas ça. On a réussi à créer une dynamique.
Oui.
Voilà. Alors après, on est un peu victime de notre succès. Je suis même, pas à refuser, mais à aménager, à retarder des demandes. Je ne sais plus quel jour, il n'y a qu'une quinzaine de jours, j'ai eu 3 demandes de conférences dans la même journée. Donc ça devient compliqué. Alors évidemment, c'est lié au 80e anniversaire de la Libération. Oui, en plus, tout le monde veut les faire au même moment, puisque la Libération,
évidemment,
par définition, c'était pareil pour tout le monde à peu près, un jour près. Oui. Donc ça devient compliqué. Pour vous dire, de cette enquête des inspecteurs généraux, alors je ne sais pas ce que ça donnera, vous savez... Mais ça servira à quelque chose. Mais à quoi? Ça, c'est toute la question. On a fait un petit point. On a fait quand même, l'année dernière, 35 conférences. Organisé 35 conférences, dont une grande partie à l'extérieur des archives départementales. Parce que là, je vous parle de celles qui ont lieu les dernières aux archives départementales, mais on en fait aussi ailleurs. Par exemple, le 7 mai, moi-même, j'en fais une devant le monument aux morts de la Javie. Voilà, on fait beaucoup de conférences à l'extérieur, donc on était donc à presque 1800 auditeurs, oui. Donc ce qui est plutôt pas mal, enfin, franchement. Alors, il y a des doublons, il y en a qui viennent plusieurs fois, il y a un public fidèle, c'est pas 1800 personnes différentes, on a fait 12 lectures, dont 2 musicales. Alors on a repris cette formule, de repartir donc sur les musicales, mais avec une version un peu différente où c'est un spectacle. C'est-à-dire qu'avant, les lectures musicales, c'était un peu... Lecture, musique. Là, la musique et la lecture se mélangent, vous voyez, donc c'est un vrai spectacle.
Oui, j'avais vu celui avec les voitures.
Ah oui, il était
magnifique.
Magnifique, vraiment. On en a fait 2 sur les brigands, qui étaient très belles aussi, et sur notre actuelle exposition sur l'automobile, c'était vraiment eux. La première était très classique et la deuxième était effectivement très moderne. Donc tout, on était très contents. Enfin, vraiment, ça a très bien marché. Et nos 12 lectures musicales, c'est quand même 583 spectateurs. Vous voyez, donc une moyenne d'un peu plus de 40, sachant qu'on en fait aussi, des lectures, pas musicales, des lectures, on en fait aussi dans des petits villages, où il y a 30 personnes, quoi. Voilà. Et nos expositions, je vous l'ai dit, on est autour de 8800 personnes. On en a fait à la cathédrale Saint-Jérôme. On en fait une toujours avec l'écomusée de Sisteron. Lui a reçu quand même 2700 visiteurs, ce qui est plutôt pas mal. Et on continue cette année, donc cathédrale Saint-Jérôme, Sisteron. On participe à une exposition à Entrevaux. On aura aussi, avec le 80e anniversaire, des petites expositions qui vont être présentées à la médiathèque de Digne, à Puymoisson. Là, on est en discussion pour Raison, etc. Donc, on continue, vous voyez, on essaye de faire en sorte de diffuser. C'est le drôle, c'est vraiment... Et ça, on ne me le demande pas, mais... Vous savez, je suis très libre, hein, et je remercie d'ailleurs le conseil départemental et la préfecture de me laisser une grande liberté, même si aussi on me demande de faire certaines choses, ce qui est normal, hein, je suis pas un électron libre hein, quand même, mais c'est vrai qu'on a une très grande liberté dans notre programmation, dans notre façon d'agir. Au fond, ce qu'on nous demande, c'est de participer à la vie culturelle du département, quoi. Voilà. Donc on le fait avec plaisir. Les agents des archives sont très, très satisfaits parce que c'est une façon beaucoup de valoriser aussi leur travail. Hein. Un archiviste dit à juste titre que faire une exposition, ce n'est pas que de l'action culturelle. C'est aussi la conséquence d'un cycle qui commence par acheter ou acquérir ou faire rentrer un fonds d'archives, vous voyez, le traiter, le classer, le conditionner. Vous voyez, avant l'exploitation, il y a toute une chaîne comme ça, et donc tout le monde participe au fond à cette activité. Et ceux qui sont en bout de chaîne, ceux qui font l'exposition, qui organisent l'exposition, en fait, bénéficient de tout le travail qui a été réalisé par les archivistes. Vous voyez, donc c'est une façon, en fait, on boucle un cycle, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, effectivement, on nous demandait si on était satisfait ou pas de notre activité. Alors, on dit oui, hein, évidemment, satisfait, forcément. Mais non, on peut toujours mieux faire, c'est vrai. On a quand même des ratés. Des fois, on a des choses qu'on aurait pu réussir un peu mieux. On a des problèmes, des fois, de communication. Vous voyez, on a tout ça. Alors, après... Là, je vous parle de l'action culturelle, vous voyez, vraiment au sens classique du terme, mais on fait aussi de la diffusion scientifique. Hein, on diffuse aussi, quand on fait une exposition, on fait un catalogue, quand on publie des ouvrages. Hein, si on prend l'année dernière, on a publié celui de la cathédrale, on a publié des actes de notre journée d'études sur la médecine, et ce sont des gratuits, hein, en plus, on les distribue gratuitement. On a publié aussi notre catalogue sur l'automobile, vous voyez, etc. On fait aussi la diffusion culturelle et on fait aussi la diffusion éducative parce qu'on propose aussi, à partir de nos expositions ou à partir d'autres thèmes, des outils pédagogiques pour les enseignants, ce qu'on appelle nous des archiclasses, des pochettes pédagogiques. Donc on continue, vous voyez, il n'y a pas que dans notre activité, il n'y a pas que l'action culturelle, hein, il y a aussi cette diffusion du savoir, hein, qui est aussi un des rôles d'un agent de la culture, en fait. Hein, voilà. Donc il y a tous ces éléments. Alors après, il posait la question de savoir, parce qu'évidemment, il cherche des solutions pour justement favoriser la culture en milieu rural. Alors nous, on a donc fait quelques propositions. La première, c'est l'idée que quand on fait quelque chose une année, que ça rentre dans un cadre, par exemple un festival. Vous voyez, donc comme ça, ça crée une habitude, ça crée... voilà, ça c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est la qualité de l'accueil aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit, nous, bien accueillis, et il faut aussi que le public soit bien accueilli. Et moi, je dis toujours que quand on fait une lecture d'archives ou une conférence, il est bien qu'après, on ait un petit moment convivial. C'est-à-dire qu'en fait, que ça ne soit pas qu'une prestation, quoi, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on vient, on fait notre job, on fait la conférence, on répond aux questions, puis on s'en va, quoi. Il faut qu'il y ait un peu ce moment d'échange, d'ailleurs, pas forcément entre celui qui fait la conférence et le public, mais aussi entre le public. Les gens, quand vous faites une conférence sur la lavande, les gens qui viennent, ils sont du coin, ils savent ce que c'est, vous voyez. Ils ont des idées, ils ont des questions à poser, vous voyez. Donc c'est pas mal aussi qu'on ait ce moment convivial, qui est pour moi très important. Et qui manque malheureusement parfois. C'est dommage de ne pas le faire parce que là, vous avez des fois 80 personnes qui sont ensemble et ça serait l'occasion de faire quelque chose. Heureusement, il y a des lectures qui se terminent, des lectures ou des conférences d'ailleurs, qui se terminent par ces petits moments conviviaux. Récemment, j'ai fait une conférence à Oraison, hein, sur la 8e compagnie Brandebourg. Je ne sais pas à combien de conférences j'en suis. Voilà. Eh bien, il y avait ce petit moment convivial après. Ben, c'est sympa vraiment, oui, de discuter à bâton rompu. La culture, c'est aussi la rencontre. Hein. Ce n'est pas simplement la prestation. Ça ne marche que si on a un relais local. On l'a à Riez, par exemple, hein, avec l'association des Amis du Vieux Riez. On l'a aussi à Sisteron, avec tous ceux qui s'occupent de l'écomusée de Sisteron, qui sont enthousiastes, qui sont impliqués. C'est des bénévoles, hein, c'est vraiment... Oui. Voilà, il faut qu'il y ait du bénévolat à côté des professionnels. C'est très important. Et puis, il y a l'Hors les murs, en fait. Hein. Là, le cycle que j'évoquais en début, ce fameux cycle sur les symboles républicains, c'était tout aux archives départementales. Quoi. Mm-hmm. Il n'y avait rien à l'extérieur. Quoi. Il faut qu'on aille à l'extérieur. Il faut que les bas alpins, enfin, ou les alpins de Haute-Provence, soient informés, puissent venir assister, même s'ils ne sont pas très nombreux, hein, ça n'a pas d'importance, puissent avoir le choix de venir. Vous savez, on fait quelquefois... on a fait l'année dernière une lecture d'archives au Castelet. Castelet d'Oraison. Hein, donc c'était une lecture hein, classique d'archives. Eh bien les gens, ils n'étaient pas très nombreux, hein, ils étaient je crois une trentaine, mais ils étaient tous satisfaits. Et puis vous savez, quand on va dans les petits villages comme ça, on est quasiment les seuls à faire quelque chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose autre que ça. Donc c'est aussi, vous voyez, un petit événement culturel. Voilà, c'est pour ça aussi, vous voyez, que c'est bien de le doubler d'un moment convivial, parce que c'est justement l'occasion. Il y a aussi le fait que, donc je l'expliquais, qu'on produit de la culture, un produit de la connaissance scientifique, ou de la connaissance historique, hein, en l'occurrence, ou de la connaissance archivistique, si on veut. On a aussi nos ressources en ligne, on a un site internet qui est très fréquenté. Évidemment, à l'échelle, on ne peut pas comparer avec les grands sites, mais on est autour, je crois, de plus de 18 000 personnes uniques par an, ce qui est franchement pas mal. Moi, je serais très intéressé par savoir la fréquentation des autres sites internet de certains acteurs culturels de la région. Hein, voilà. Donc, on a vraiment beaucoup de sujets. Et puis après, bon, on a les sources d'amélioration, etc. Alors ça, c'était le deuxième étape. Premier questionnaire, le deuxième... L'interview, alors en fait ça s'est fait en visio, hein, donc j'ai fait une visio avec trois inspecteurs généraux, ça a duré 1h15, 1h30, tout le monde avait l'air satisfait, voilà. Enfin, c'était l'occasion de reparler d'un de mes amis, vous voyez comme quoi le monde est petit toujours, vous savez. Voilà. Après, la DRAC a organisé à Château-Arnoux, Théâtre du Rance, le printemps de la ruralité. Donc une réunion dont j'ai la synthèse, c'était le 26 mars, vous voyez, donc on était début février, donc ça se fait dans toutes les régions et dans les départements, soit c'est au niveau régional, soit c'est... Alors là c'est au niveau régional, hein, c'est-à-dire qu'on avait les Tupaca qui étaient donc réunis avec l'idée, évidemment, de faire des ateliers autour de thématiques, faire un état des lieux et des propositions d'action. On a parlé beaucoup d'actions culturelles, assez peu de patrimoine, on a par exemple peu parlé d'archives. Parce qu'on est quand même un domaine très particulier, vous voyez, on est quand même un peu à part, hein, enfin voilà. En revanche, on a beaucoup parlé de compagnie, etc., ce qui est tout à fait légitime, etc. D'autant plus que nous, on est des institutionnels, donc on a aussi des problématiques qui sont un peu différentes, on est quand même installé. On n'a pas les questions des financements, on n'a pas les problématiques que, évidemment, une compagnie ou un indépendant. Ça s'est passé par atelier. C'était intéressant parce que tout était un peu mélangé. Ils avaient fait en sorte de mélanger géographiquement et par statut, en fait. Hein, vous voyez. Donc on se retrouvait un peu comme ça avec des gens très différents de nous, même si on est dans le culturel. Et puis après, alors, donc ça s'appelle la boule de neige. Hein, donc c'est des ateliers, on peut des petits ateliers, des petits groupes qui se regroupent à la fin. Et à la fin, il y a une sorte de synthèse. Hein, on garde les points importants. Et puis les archives dont on parle au début disparaissent au fur et à mesure. Mais ce qui est normal, hein, l'archéologie aussi, voilà, il y a des secteurs comme ça. Le patrimoine, les monuments historiques, pareil. Quels ont été les enjeux qui ont été repérés? Enjeux de mobilité, enjeux d'espace. Enjeu de temps, enjeu de visibilité, enjeu d'ingénierie, hein, c'est ce que je disais, et puis de ressources humaines. Hein, voilà. En fait, on a posé plutôt des questions, faire un état de lieu, poser des questions, plus que répondre, amener des solutions, puisqu'en fait, ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'était la troisième étape. Et moi, j'en ai une quatrième, que j'ai un peu abordée dans une réunion régionale des archivistes PACA, en avril 2024. Mais peut-être que j'en parlerai peut-être après la pause, hein. Comme ça sera l'occasion voilà, de revenir sur la quatrième étape.
Donc c'est tout de suite la pause et on va écouter Nora Jones.
I don't wanna talk about it, I just wanna dance. Oh, I just wanna dance. I just wanna dance. just wanna dance. I just wanna dance. I just wanna dance. Oh, oh, oh. I just wanna
Histoire d'archives avec Jean-Christophe Labadie.
Oui, alors j'en étais donc au quatrième point, puisqu'on avait fait les trois premiers sur le printemps de la ruralité. J'étais donc au quatrième point. Alors le quatrième point, il aurait dû avoir lieu normalement en avril, mais finalement il a été repoussé. Je lui expliquais en début d'émission. On est un peu donc devenus des spécialistes de la ruralité. Et dans ce cadre-là, je vais intervenir au Conseil supérieur des archives à Paris le 28 mai pour justement présenter toutes nos activités liées à notre programmation éducative et culturelle. Évidemment, personne ne connaît le Conseil supérieur des archives. C'est un conseil qui est présidé par Jean-Louis Debré, qui a des missions classiques d'un conseil supérieur. C'est en fait, évidemment, définir des orientations, etc. Et donc, le 28 mai, donc à Paris, au Salon des Maréchaux, au ministère de la Culture, rue de Valois, je vais vous lire le titre de ma communication, vous allez comprendre tout de suite. Comment l'offre culturelle d'un service d'archives peut toucher 10% de la population d'un territoire rural? L'exemple des archives départementales des Alpes-de-Provence. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est ce que je disais, nos fameux 16 000 et quelques. On est à peu près effectivement à 10% de la population du département. Alors en réalité, il y a des doublons, il y a aussi des touristes, il y a des curistes, etc., qui viennent. C'est pas tout à fait 10% de la population des Bas-Alpins. Mais je vous disais, des fois, on monte à 20 000. Dans ce cas-là, on y est, sans doute. Voilà, donc c'est ça la problématique qui va être évoquée. Donc je vais faire une présentation de notre activité, que je peux d'ailleurs évoquer ici, puisque c'est préparé. Voilà. Alors, rappelez donc que c'est en fait les archives, c'est 20 agents quand même, c'est pas rien, dont 4 cadres A, on est il y a un bon encadrement. Que je disais, on a 2 agents qui s'occupent de l'action éducative et culturelle. Que le département comptait 162 000 habitants en 2019, donc on est bien dans nos 10%, et voire plus, qu'il est quand même assez vaste, c'est presque 7 000 km², avec, alors il y a la question de la superficie, mais c'est pas la plaine, ce qui rend encore les choses plus difficiles. Et puis, il y a très peu de villes, en fait. C'est vraiment un territoire rural. La plus grande ville, c'est Manosque, 22 000 habitants, puis suivi de Digne, etc. Et 3 sous-préfectures, Donc, je rappelle, Castellane, c'est 1600 habitants. Alors, évidemment, en été, c'est beaucoup plus, hein, mais voilà. Donc, en fait, 60% de la population vit en milieu rural. Donc, c'est un vrai sujet, voilà. Si on enlève, en gros, la vallée d'Adurance et puis quelques points comme ça, et puis même Castellane, 1600 habitants, c'est une zone rurale, voilà. Et puis enfin, l'importance du fait touristique, hein, puisque c'est le premier employeur, et c'est quand même 2,5 millions de visiteurs par an. Alors, je vais revenir un peu sur la présentation que je vais faire. En 2023, puisque c'est l'année de référence pour nous, on a proposé 212 activités. Vous voyez, donc c'est presque une par jour si on enlève les week-ends, les vacances, etc. J'ai évoqué donc les visiteurs des expositions, des expositions itinérantes, parce que je n'ai pas évoqué les expositions itinérantes. Hein. J'ai parlé que des expositions fixes tout à l'heure. Il y a aussi les mille et quelques qui voient nos expositions itinérantes. Les auditeurs des conférences, j'en ai parlé. Je dis conférence, ça peut être aussi des interventions, comme par exemple la descente de la route de Barle, hein, qui va cette année avoir lieu au mois de juin, où on fait une descente à vélo toute la journée, et chacun, et plusieurs spécialistes qui commentent, l'un la géologie, donc l'autre les productions artistiques, etc. Un troisième la vie locale, etc. Donc ça rentre dans ces interventions, évidemment. Voilà. Les lectures d'archives, hein, donc, dont les deux lectures musicales. Je parlais aussi des publics empêchés. On avait fait un projet aussi avec le SPIP, hein, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, hein, qui nous a conduit, qui m'a conduit donc à cette conférence à la maison d'arrêt, mais aussi à la publication de deux fascicules, l'un sur les archives et l'autre sur la restauration de documents d'archives, et un film, hein, qui était diffusé sur le circuit interne des deux maisons d'arrêt de Gap et de Digne-les-Bains. Le public scolaire, hein, je l'ai dit, 135 ateliers, on est presque à 3000 élèves. Alors, c'est pour l'essentiel des écoliers et des collégiens, hein, les publics lycéens et adultes, et supérieurs sont beaucoup plus difficiles à atteindre, puis il y en a beaucoup moins, évidemment. Je parlais tout à l'heure des 450 participants à l'atelier Résistance, hein, qui était proposé lors des sessions du Service national universel, donc il faut les rajouter. Hein, donc, voilà. Donc, pour vous dire que tout ça est important. Alors, il y a le nombre, il y a aussi la qualité, je pense, de ce qu'on fait. On fait aussi des journées pédagogiques, on en a fait cette année comme l'année dernière avec un magistrat. Là, c'était le procureur qui était venu cette année, sur les violences faites aux femmes, hein, donc en mars. Alors, on ne l'avait pas fait le 8 mars parce que c'était pendant les vacances, hein, on l'a fait un peu après. Voilà. Et puis, nos publications. J'ai parlé du catalogue gratuit de notre exposition à la cathédrale Saint-Jérôme, ce qui s'appelait Trésor d'orfèvrerie, hein, qui est quand même tiré à 1500 exemplaires. Les actes de la journée d'études qu'on avait faite en décembre 2022, sur la médecine, les maladies et les épidémies. Celui aussi qu'on a fait sur l'automobile, qui est quand même un 120 pages gratuit. Et puis, n'oublions pas, dans chaque exemplaire de la revue du Conseil départemental, il y a une rubrique qui s'appelle Histoire d'archives, hein, donc où je raconte une histoire. Donc là, j'en suis à plus d'une centaine d'histoires racontées. Et il y a un public fidèle. Hein, quelquefois, je rencontre des personnes qui me disent « Oui, je lis régulièrement votre page, hein, votre histoire, qui est en 2000 caractères avec un document. » Voilà. Alors, j'expliquais tout ça est en fait le résultat d'un processus qui, par exemple, je vous donne un exemple très concret, d'acheter un fonds privé, ou soit un don, hein, c'est pas forcément acheté, ce fonds est classé, ensuite ce fonds est exposé, il est édité, hein, soit par un catalogue, soit par un ouvrage, etc. puis ensuite mis en ligne. Hein, donc, par exemple, le fonds Eugène Vial, qui est un fonds photographique, qui avait donné lieu à notre précédente exposition fixe aux archives départementales. Vous avez toutes les images sur notre site internet, hein, archives04.fr. Vous voyez, donc, voilà, on a aussi ce travail, qui est un travail de numérisation, de mise en ligne, etc. On propose aussi donc des ateliers hein, pédagogiques, des outils, archiclass, pochette pédagogique, etc., etc. Voilà. Alors d'autres fonds se prêtent aussi à des conférences, à des lectures d'archives. Hein, je parlais de la vie rurale. Je parlais, enfin voilà. On peut toujours, voilà. Alors pour résumer un peu tout ça, on a fait une carte où on présente sur le département toutes nos activités. Que ça soit, enfin, pas toutes, mais les lectures d'archives, les conférences, on met pas les expositions, etc., les conférences et l'action, les ateliers pédagogiques. Et on s'aperçoit, finalement, que dans les 12 dernières années, on a fait 43 expositions fixes, 167 conférences, 148 lectures d'archives, 94 publications, donc, dont la plupart gratuites, 31 archiclasses, 5 pochettes pédagogiques, 105 billets pour la revue du conseil départemental, 5 journées d'études, vous voyez, des émissions de radio hein, avec vous hein, depuis
quelques années.
Hein, on était à plus de 70, avec aussi, à un moment donné, on intervenait, j'allais à Aix-en-Provence pour Radio France Bleu, hein, c'est ça ouais, voilà. Et puis, en moyenne, je vous le disais, on est à plus de 2100 élèves par an hein, sur cette période. Je ne vous parle pas non plus des articles scientifiques hein, qui ne sont pas comptés dans les publications. Voilà. Ce qui fait que, moi je dis toujours, pour résumer un peu notre activité, on est ce qu'on est. Alors, c'est un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais étudiant en histoire, qui s'appelait « Le petit travailleur infatigable ». Voilà, alors c'est un livre très orienté, hein, qui évoque la vie des ouvriers au XIXe siècle, hein, l'idée de faire un réservoir humain par le patronat, oui, l'idée de la cité ouvrière, l'idée de l'usine au centre, etc. Mais je dis qu'on est un petit peu des travailleurs, des petits travailleurs infatigables au service de la population et que, évidemment, on est toujours prêt à écouter toutes les suggestions hein, que les uns et les autres nous apportent. Alors c'est vrai qu'on laisse toujours un petit questionnaire hein, quand, par exemple, on fait des conférences. Alors en général, les personnes... enfin, il mentionne que des choses positives, hein, voilà. Mais c'est vrai aussi qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, hein, et donc on est toujours dans l'attente, de conseils, d'idées, de nouveautés. On travaille beaucoup en coopération, hein, on travaille aussi avec les services de l'ONAC, hein, l'Office national des combattants et victimes de guerre, on travaille aussi avec la délégation militaire départementale, on travaille beaucoup avec la préfecture, on travaille beaucoup vous voyez, etc. On essaye de multiplier les coopérations parce que ça permet de faire une économie de moyens, ça permet de confronter des idées, des expériences, etc. Mais on est aussi, et puis des associations hein, qui aussi nous font des propositions. Voilà, donc on est sans cesse en train d'essayer de s'améliorer, voilà, donc si les uns et les autres ont des idées, hein, en particulier dans l'activité dans la ruralité, hein, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, on est tout à fait preneurs. Pour finir, peut-être un mot sur notre actualité.
Eh alors, bien, évidemment.
Voilà. Alors, aujourd'hui, on est la salle de lecture est fermée au public depuis cette semaine pour une raison très simple. C'est que pour ceux qui l'ont vu, on est en train de construire une extension des magasins d'archives. Hein. On va doubler notre capacité avec simplement 5 km mis en place tout d'abord, dans un premier temps, puis 5 autres kilomètres beaucoup plus tard, quand on aura besoin. On a donc des annexes, hein, puisqu'on est rempli, on est plein, hein, plein d'archives, donc on a deux annexes, et on est en train, en ce moment, d'en vider une, de déplacer donc pas la vider, mais commencer à la vider, de déplacer donc ce qu'on appelle nous des caisses. Alors dans chaque caisse qui fait 60 cm, on a 6 boîtes hein, de 10 cm. Donc de les déplacer, soit de les mettre dans nos magasins actuels en bouchant les trous qui restent, soit de les déplacer dans un autre lieu quand ce sont des archives éliminables à terme, et puis de déliminer. Je crois que là, aujourd'hui et demain, on a une cinquantaine de caisses qui vont être éliminées. C'est-à-dire 50 caisses, ben, vous multipliez par 6, hein, 5 fois 6, 30, ça fait... Ça fait donc beaucoup de boîtes hein, qui vont être éliminées. Donc là, en ce moment, les agents des archives sont en salle de lecture avec des dossiers éliminables où ils enlèvent tous les trombones, les plastiques, les élastiques. Et puis surtout, ils vérifient que ce qui est dans la boîte, ce qui est annoncé dans la boîte, est bien ce qui est dans la boîte. Vous voyez, hein, que ce qui est marqué sur la boîte, c'est ce qui est dedans. Parce qu'il faut qu'on soit sûr que quand on élimine, qu'on élimine des choses qui doivent être éliminables. On n'a pas le droit, évidemment, d'éliminer des archives définitives. Voilà, donc ce travail va durer 2 jours, hein, et c'est donc un travail très important, qui est évidemment invisible, hein, mais qui est tout à fait courant. Un petit mot sur les éliminations. Dans le département, chaque année, 2,5 km d'archives sont éliminées, hein, avec un visa du directeur des archives départementales. Alors ce ne sont pas nous qui éliminons les archives, hein, ce sont les services qui les produisent. Mais nous avons nous-mêmes les archives du conseil départemental, hein, donc à gérer. Et là aussi, donc, on gère ce qu'on appelle les archives intermédiaires. Et quand les archives intermédiaires arrivent en fin d'utilité administrative, hein, c'est le terme qu'on utilise, eh bien, il y a 2 solutions. Soit c'est des archives définitives, on les conserve, soit c'est des archives éliminables, on les détruit. Et donc là, on est en train justement de détruire ce volume très important d'archives éliminables, ce qui nous permet d'ailleurs de gagner de la place pour pouvoir y mettre celles, les archives qu'on est en train de déplacer d'un dépôt à un autre dépôt, quoi. À la fin de l'année, normalement autour de novembre, décembre, nous allons déplacer le reste. Et le reste, c'est quasiment 850 mètres linéaires d'archives, donc l'équivalent de 8500 boîtes, qui vont être déplacées vers nos magasins qui seront enfin mis à disposition, puisque normalement notre extension sera livrée cet été. Alors, il y a une règle très importante, c'est que quand on a un bâtiment d'archives neuf, il faut qu'il sèche. Donc on a normalement 3 mois à attendre après la mise en service des systèmes de ventilation, etc., pour être sûr que le bâtiment soit bien sec. Parce que si on met des archives dans un bâtiment qui est encore très humide, évidemment, on a des risques de contamination très très importants. Voilà. Donc ça, c'est pour notre actualité présente. L'actualité culturelle, donc j'évoquais donc la conférence que je vais prononcer donc devant le monument aux morts de la Javie à 18h le mardi 7 mai, donc évidemment la veille du 8 mai, hein, comme ça ne vous aura pas échappé, à la Javie, hein, qui est un monument qui est exceptionnel parce que d'abord il a une statue, hein, ce qui n'est pas une femme hein, qui domine sur le piédestal, qui est là, donc une représentation de la France casquée, qui est assez rare, hein, en particulier pour une petite commune. En général, on a plutôt des types très classiques, d'obélisques, hein, etc. Et puis, il y a eu un grand débat pour savoir où on allait le placer. Il y avait des tensions très importantes entre 2 clans, en fait. Hein, alors, je veux dire, un clan laïque, pour faire simple, hein, et un clan religieux. Et à l'époque, il avait été, pour régler le problème, il a été posé à équidistance entre l'Église et la mairie, hein, pour neutraliser, en fait, pour pas dire qu'il était plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et donc voilà. Donc c'est un vrai sujet. Et c'est une conférence qui est évidemment liée à la publication, hein, d'un ouvrage qui va sortir normalement fin du mois, au début du mois de mai, relatif au monument aux morts, qui fait plus de 1100 pages, 4,5 kg et 6 cm de reliure. Vous voyez, donc, en 2 volumes, hein, voilà, mais qui sera le sujet de notre prochaine rencontre, hein, me rappelle. Voilà. Et puis enfin, on a une lecture musicale, là c'est en juin, le 20 juin, on parlait des lectures musicales tout à l'heure, hein, des 2 qu'on a faites l'année dernière, avec les comédiens de la Mobile Compagnie. Et là, les 2 lecteurs seront accompagnés, enfin, le lecteur et la lectrice seront accompagnés d'un accordéon. Hein, et le sujet, c'est « En voiture, s'il vous plaît », donc évidemment lié à notre exposition. Ça sera aux archives départementales, jeudi 20 juin à 18h. Et le monument aux morts, c'est... Alors, pour ceux qui s'intéressent, je ne parle... évidemment, je parle du monument aux morts de la Javi et des morts de la Javi, mais je fais quand même des points de comparaison avec tous les monuments basalpins. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, je recontextualise en fait, hein, ce monument. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut aussi intéresser d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de, pour les uns et les autres de voir aussi son monument chez lui d'une autre manière. Hein, puisque j'évoque aussi toutes les typologies de monuments. Est-ce que celui-ci est différent des autres? Combien y en a-t-il de cette nature dans les parcs? Quels sont les monuments dominants, quelles inscriptions on trouve, etc. Vous voyez, donc ce n'est pas que sur la Javi, vous voyez, au sens strict du terme, évidemment, hein, c'est le monument de la Javi, mais ça concerne aussi, il y a un élément comparatif en fait avec tous les autres monuments et les morts du département. Hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bavard, hein, évidemment. Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on monte. Je disais, on est victime un peu de notre succès. Hein, c'est une des difficultés. Il y a quelques années, on était à 15 conférences, vous voyez, 15-20 conférences, 35 l'année dernière. Cette année, on va être un peu moins. Mais par exemple, tous nos jeudis à partir de septembre sont déjà pris par des conférences. Vous voyez. Donc, on a à chaque fois quelque chose. Donc, ce qui veut donc dire que quand on nous fait une proposition de conférence, on est déjà sur l'année 2025. Vous voyez, donc, voilà. Et on proposera là aussi beaucoup de choses. Je n'ai pas évoqué non plus l'exposition qu'on va faire à Entrevaux, donc c'est sur la vie des Entrevallais, je crois, dans l'entre-deux-guerres, hein, grâce à des photographies qui avaient été faites par Désiré Sic. Et puis l'exposition qui va être proposée par l'écomusée, enfin le travail qui va être proposé par l'écomusée, c'est autour du pont de la Baume. Donc ça donnera lieu aussi d'ailleurs à une conférence de Philippe Oran, hein, qui est un ingénieur du département qui était responsable justement des routes et des ponts, donc qui fera donc une conférence. Ça sera accompagné d'une exposition sur Kakemono, hein, qui est en cours de finalisation aux archives départementales. Et on est très heureux, hein, toujours, comme je dis, chaque année, d'aider les associations, hein, avec nos moyens... humains et financiers, puisque on prend en charge aussi une partie des coûts, car pour nous ça nous fait des retombées très importantes, hein, pour notre bilan en fait, et ça montre qu'on est pas simplement qu'on est bien un service d'archives départementales, hein, et qu'on n'est pas un service parce que moi je suis toujours un peu irrité quand on nous décrit comme les archives départementales de Digne, vous voyez, donc en fait ce sont les archives départementales à Digne, mais ce sont les archives départementales des Alpes-de-Provence, hein, c'est notre vocation.
Du département, voilà. Comme son nom l'indique.
Exactement, voilà. On est exactement un service d'archives départementales, voilà, hein, pour reprendre la terminologie de l'État. Voilà, et donc, voilà. Après, on a d'autres projets sur le 80e anniversaire avec l'inspection de l'académie, donc l'éducation nationale et la préfecture, hein, mais ça j'aurai aussi l'occasion d'en parler une autre fois, donc hein, ça sera une façon de clôturer notre prochaine conversation, puisque je parlerai des monuments morts de 14-18, mais là ça sera sur la Deuxième Guerre mondiale, hein, la libération, c'est un projet qui est intéressant, et sur lequel on va plancher la semaine prochaine, lundi, pour voir comment concrètement on va le réaliser. Voilà, donc vous voyez, en fait, les projets nous courent après, hein, pour dire les choses. Voilà, c'est pas nous qui courons après les projets. Je parle même pas du projet René Char, qui va être présenté. C'est un projet entre le Vaucluse et les Alpes de Provence, puisque c'est Cérest, hein, donc l'île sur Sorgue. Donc il va être présenté donc à l'île sur Sorgue vendredi prochain, là, à la secrétaire d'État qui sera en déplacement, et puis d'autres projets encore sur la cathédrale Saint-Jérôme, enfin, etc. Voilà, donc il y a tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore qui vont avoir lieu. De toute façon, on rentre dans un cycle qui est lié au... Alors que ça ne sera pas le... sera pas la densité des 100 ans de 14-18, mais quand même, il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Je parlais de Puymoisson tout à l'heure. Moi, je ferai une conférence en novembre, hein, puisqu'on décidait que le cycle commençait avec le 8 mai et finissait avec le 11 novembre. Je ferai une conférence aussi sur l'activité allemande en juin 1944 à Puymoisson et leurs importantes opérations répressives qui ont lieu. Donc, ça me sortira un peu de la 8e compagnie Brandebourg. Hein, j'en parlerai un petit peu quand même, puisqu'ils sont ce sont des acteurs, évidemment, de cette répression. Et je parlerai de Puymoisson. Il y a aussi des événements qui se sont passés. Voilà, vous voyez, donc ça ne va pas arrêter. Vous savez, chaque année, vous vous dites, ça sera plus calme l'année prochaine. Eh bien, c'est pas vrai. Voilà. Ce sera peut-être mon point de conclusion, si vous voulez. Voilà.
Ben voilà. Merci Jean-Christophe Labadie.
Merci à vous.
Il est déjà l'heure de nous quitter. Et donc, on se retrouvera le
mois
prochain.
Oui, on avait prévu pour parler de l'ouvrage sur les monuments aux morts de la Grande Guerre.
Merci. Bonne journée. À bientôt.
Merci à vous. Bonne journée à tous.